Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tout au long de la grossesse, on voit les femmes se transformer, en fait, elles se tournent vers l'intérieur.
J'avais entendu parler du postpartum, mais waouh, j'étais vraiment à des années-lumière d'imaginer ce que ça pouvait être.
On nous le propose comme facile et super, et c'est que du bonheur, et oui, c'est du bonheur, oui, mais pas que.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
Qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Marie.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Marie ?
Je viens vous voir pour parler d'hypersensibilité pendant la grossesse mais aussi après.
Comment les choses se sont passées pour vous Marie ?
Les choses se sont bien passées. Dans la théorie, mon accouchement s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'instruments. J'ai accouché par voix basse comme je souhaitais. Mais c'est vrai que dans la pratique, c'était très intense et très fatigant.
Peut-être avant de parler de votre accouchement, comment déjà pendant la grossesse, vous vous êtes sentie ? Est-ce que vous avez ressenti une forme d'hypersensibilité déjà dans ce premier temps-là ?
Oui, quand je suis tombée enceinte, j'étais en quête de sens aussi parce que j'ai trouvé le temps long avant de sentir le bébé bouger. Donc j'étais moi déjà très à l'écoute de ce qui se passait dans mon corps avec une certaine hâte de sentir les choses. Je dirais que l'hypersensibilité s'est traduite par un odorat très développé. Certaines odeurs étaient... comme l'odeur de la cigarette par exemple, qui est vraiment insoutenable. J'ai pas eu de dégoût sur des aliments ou ce genre de choses. Parfois, je sais que ça peut arriver, ça m'est pas trop arrivé. Et ensuite, sur le plan plutôt émotionnel, je dirais que ça a été beaucoup d'épisodes de pleurs, mais presque des pleurs de décharge. Je suis quelqu'un qui a la larme assez facile de manière générale. Mais c'est vrai que pendant la grossesse, un rien ne pouvait m'émouvoir d'autant plus. Et ça dure encore d'ailleurs. donc voilà.
Sur ce plan émotionnel, Marie, dites voilà, cette labilité un peu avec beaucoup de pleurs. Comment vous avez vécu ça ? Est-ce que vous vous êtes sentie un peu perdue ou au contraire, voilà, c'est quelque chose que vous avez traversé tranquillement ? Voilà, comment ça s'est passé pour vous ?
Moi, le pleur en général, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et qui est un exutoire. Et mon conjoint, qui lui a la larme plus difficile, me dit que j'ai beaucoup de chance d'avoir cette arme parce que c'est quelque chose qui fait que l'émotion nous traverse et donc elle, par traversée, on entend elle. Passe par nous, mais elle en sort aussi. Et c'est ce côté exutoire qui fait beaucoup de bien. Et en plus, je suis avec du coup, quelqu'un qui me connaît maintenant et qui sait très bien gérer et me rassurer quand je pleure. Donc, c'est pas quelque chose qui, lui, le met mal, le rend anxieux. Il pourrait avoir du mal à gérer quelqu'un qui se met à pleurer. Et pour le coup, c'est pas son cas. C'est vraiment quelqu'un qui, au fur et à mesure des années, a compris comment je gérais mon pleur, que parfois, le pleur, ça pouvait être... Voilà, c'était ma manière de vivre les émotions. Et il sait d'ailleurs distinguer... mes pleurs, parce qu'il y a plusieurs pleurs du coup. Donc je me suis sentie bien à ce niveau-là. Là où ça pouvait être peut-être plus compliqué, c'était ces épisodes quand ça survenait au travail. Je pouvais être plus susceptible au travail. Une remarque pouvait me toucher. Peut-être prise aussi par cette angoisse d'être vue comme la personne enceinte qui va devoir prendre un congé maternité au travail. Moi, ils ont été absolument super avec moi, mais j'avais l'envie que ça se passe bien, que la passation avec la personne qui allait aussi prendre ma place pendant mon absence se passe bien. Et donc, je pouvais avoir parfois des épisodes de stress. Et si je sentais en face qu'il y allait avoir aussi l'envie que je finisse mes dossiers, etc., je pouvais, être prise par une certaine angoisse, être vue comme celle qui ne va pas pouvoir finir tous ses dossiers avant de partir ou ce genre de choses. Même une paranoïa sur le retour, le futur retour. Je me projetais très, très en avant. Et c'est vrai que le fait de partir avec aussi le retour, c'est quelque chose qui pouvait me faire... très peur, et je suis aujourd'hui encore actuellement dans cette période de congé maternité. Je n'ai pas encore repris le travail, et pour être tout à fait transparente, c'est quelque chose qui me stresse parce que j'ai vraiment fait attention aussi à couper, à ne pas regarder mes mails, etc. Mais ce retour, savoir comment les choses ont évolué en mon absence et comment je vais être accueillie, c'est forcément des choses qui me font poser plein de questions et... qui me paraissent à la fois très proches dans le temps et en même temps j'en suis très éloignée parce que j'ai la tête dans les couches j'ai pas du tout l'esprit actuellement, en tout cas au travail, à la reprise, aux missions, etc.
Vous attendiez, Marie, à vivre cette hypersensibilité, alors à la fois au niveau de vos sens, là, de l'odorat, vous nous dites, et émotionnelle?
On m'en avait parlé, mais je pense qu'on le sous-estime toujours, ou en tout cas, tant qu'on l'a pas vécu, c'est un peu abstrait. On m'avait parlé, une amie à moi a eu un épisode de dépression postpartum assez intense, et elle m'avait vraiment dit ces mots. J'avais entendu parler du postpartum, mais waouh, j'étais vraiment à des années-lumière d'imaginer ce que ça pouvait être. Je vous parle d'elle dans le cas où elle a eu un épisode hyper aigu. Et en ça, j'avais le sentiment qu'on allait nous dire plein de choses, faire de la prévention sur plein de choses, des cours de préparation à l'accouchement qui servent à se préparer à aussi les états émotionnels qu'on allait traverser. Mais je savais que tant qu'on ne l'avait pas vécu, ça allait être encore un peu abstrait. Donc dans l'idée, je savais que j'allais sans doute pleurer d'autant plus, je me connais, peut-être avoir aussi des changements sensoriels, mais c'est vrai que c'est toujours étonnant quand on le vit. Après, pendant la grossesse, c'était pas non plus si énorme comme changement. Pour le coup, c'est l'après-accouchement qui a été plus surprenant pour moi. On pourra en parler peut-être un peu plus tard, mais la grossesse s'est hyper bien passée, ouais. Et c'est quelque chose qui me faisait assez peur de tomber enceinte. Je fais partie de ces personnes qui avaient très peur de l'accouchement, de souffrir pendant l'accouchement, de ce que ça allait aussi changer dans mon corps après l'accouchement. La grossesse me faisait un peu peur aussi, c'est vrai, mais j'étais vraiment terrorifiée à l'idée de tomber enceinte, enfin un peu depuis toujours finalement, et j'ai franchi le pas pour des raisons qui peuvent parfois paraître un peu pragmatiques à certaines personnes, c'est-à-dire que mon conjoint est plus âgé que moi, mes parents m'ont eu à 42 ans, donc sont assez âgés aussi. J'ai toujours dit à mes parents « Oh, vous m'avez pas fait de petit frère ou de petite sœur ». Et moi, j'ai été du coup en tant qu'enfant unique qui a regretté de pas avoir de petits frères et de petites sœurs, qui a eu des parents âgés à l'école. On me disait « Ah, il y a ton grand-père qui vient te chercher à l'école ». Ben non, c'est pas mon grand-père, c'est mon père. Et mon conjoint, donc, a 10 ans de plus que moi. Ce qui fait que c'est vrai que j'ai sauté le pas suite à une conversation que j'ai eue pendant le confinement avec un voisin qui me disait « Mais... ton homme, c'est celui-ci, tu veux des enfants dans l'absolu avec lui ?» Je lui ai dit oui.
Mais alors vraiment, je pense que tu seras jamais prête, franchis le pas. Si tu as envie que tes parents soient grands-parents et connaissent tes enfants, si tu es sûre du choix de ton conjoint, bah, en fait, je pense que tu n'es pas peut-être de ces personnes qui ont... J'ai aussi connu des femmes qui, voilà, dès l'âge de 18 ans, se sentaient nées pour être mères. Moi, je ne suis pas comme ça. Mmh. Et il me l'a dit, mon voisin, il m'a dit, je pense que tu ne feras pas partie de ces femmes qui vont se réveiller du jour au lendemain et se dire, j'ai plus peur de rien, je veux être mère, c'est maintenant. Mais par contre, tu m'évoques l'envie que tes parents soient grands-parents, de fonder une famille avec cet homme-là. En plus, cet homme a du coup une dizaine d'années de plus. Et donc, il a l'âge, finalement, il a 40 ans. Donc, il a l'âge que mes parents avaient quasi quand ils m'ont eu. Et je leur ai, moi, en tant qu'enfant, reproché. Parce que j'ai toujours eu le sentiment qu'ils allaient bientôt mourir, que j'allais les perdre quand je serais jeune. Donc, pour toutes ces raisons, je me suis dit, mais en fait, oui, t'as envie, eh ben, allons-y, quoi. Et par contre, c'est vraiment, une fois que j'avais pris cette décision, c'était un vrai vœu, hein, complètement partagé à 100%. Mais quand je raconte ça, c'est vrai que les gens me disent « Mais t'en avais envie, vraiment ?» Je dis « Oui, j'en avais vraiment envie. » Mais c'est le déclic dont j'avais besoin. Mmh. Cette conversation au détour d'un verre avec un voisin. Tout ça pour dire que j'avais très peur de l'accouchement et de la grossesse et de tout ce qui englobait ça.
Et justement, pendant l'accouchement, au niveau de cette hypersensibilité, est-ce que vous dites voilà, « Finalement, dans la grossesse, oui ?» Vous l'analysez, vous la repérez, cette hypersensibilité, mais ça ne vous a pas, j'allais dire, désarçonné ou en tout cas trop bousculé. En tout cas, c'était contenable, gérable pour vous. Est-ce qu'au moment de l'accouchement, vous avez senti voilà, que ça pouvait être différent, se manifester différemment pour vous ?
Bah, ce serait difficile de parler d'hypersensibilité pendant l'accouchement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais... Lorsque ma poche des os se fissure, je suis à la maison, on va du coup voir si c'est déjà bien la poche des os qui s'est fissurée. C'était le cas. Il y a une sorte de course qui se... Enfin, pas une course, mais quelque chose de vraiment très lié à l'action et au fait de faire qui se met en place à cet instant T. Je fais confiance à mon corps à ce moment-là. Je sens que ça va aller, que ça va bien se passer. J'ai une hâte aussi parce que le 8e, 9e mois sont des mois où on commence à en avoir un peu marre aussi et on a envie de rencontrer ce petit être. Donc il y a une hâte réelle. En plus, on prépare plein de choses dans la chambre de l'enfant, etc. Les choses deviennent concrètes, il ne manque plus que ça, entre guillemets. Et du coup, à ce moment-là, je dirais que mon hypersensibilité, elle est vraiment liée à l'écoute de mon corps, la recherche d'une contraction, ce genre de choses. Parce que du coup, ma poche s'est fissurée, le travail ne s'est pas déclenché naturellement. J'ai été déclenchée. C'est aussi pour ça que ça a duré très longtemps, parce qu'une fois que le déclenchement a été amorcé, il y a eu plus de 24 heures de travail. Donc en tout et pour tout, je suis restée 10 jours à la maternité, entre le moment où la poche se fissure, où on attend 48 heures que le travail commence, que le travail ne commence pas, qu'on me déclenche et que je mets ensuite plus de 24 heures à coucher et qu'après je reste 4 jours à la maternité. En tout et pour tout, il se passe 10 jours. Et c'est vrai que voilà, à ce moment-là, je suis moi dans la hâte quasi constante. Bien évidemment, mon accouchement, comme il a été très long, il a été fait de plein d'épisodes, plus ou moins faciles, des moments des grands ups où je me sens vraiment hyper bien. La péridurale aide aussi à, voilà, on sent pas la douleur, mais on sent les choses. Donc ça, c'est hyper agréable en termes de sensorialité. On sent les choses, mais on n'a pas la douleur qui va avec. J'étais dans une maternité qui était exceptionnelle, où on m'a installée, c'était les Bluets à Nation, où on m'installe une balançoire que je peaufine en mettant un autre drap, ça devient un hamac. La sage-femme rentre dans la pièce et me dit « Ah, mais c'est génial ce que vous avez fait avec la balançoire !» Elle me prend en photo, elle me dit « Ah, mais oui, vous avez craqué le truc, maintenant c'est un hamac !» Il y a aussi beaucoup de moments où j'échange avec cette sage-femme que je pense être celle qui va me faire accoucher, parce que je la rencontre à 8h du matin, elle finit à 8h du soir, mais moi je n'accouche qu'à 3h du matin encore après.
là, je me mets à exploser en sanglots quand elle me dit « je suis désolée, je vais devoir partir, mais je vous laisse entre de bonnes mains ». Moi, c'est hors de question à ce moment-là que ce ne soit pas elle. J'ai passé 12 heures avec elle. C'est très, très compliqué à ce moment-là. Elle me donne son mail. Il y a eu vraiment un contact avec elle qui a été... Peut-être que c'est l'hypersensibilité hein, à ce moment-là qui a aussi joué. Mais en tout cas, quand elle me dit « je passe le relais », c'est hyper difficile et frustrant pour moi. Et ça se passe très bien, mais la personne d'après est très différente, le feeling est différent. Et puis elle arrive aussi à un moment donné, je pense qu'elle est briefée en disant « bon là, on a quelqu'un qui est là depuis un certain temps, donc là, on n'est plus là pour copiner, entre guillemets, et vas-y que je t'envoie de l'ocytocine, on joue avec les hormones. » Et là, on est dans une course, là pour le coup, parce qu'en plus, le cœur du bébé ralentit, à vraiment ce que ça se passe bien. Il y a eu des moments aussi où j'étais... prise par le stress, j'ai eu des moments d'émotion hyper intenses. À un moment donné, on m'annonce que je suis bloquée à 9,5 de dilatation et que si je n'arrive pas à être dilatée à 10 d'ici une demi-heure, ça finirait en césarienne. Mais ça fait 24 heures moi, que je suis en travail, donc à ce moment-là, moi, je lui dis « bah non, à 0,5, laissez-moi la demi-heure, je vais tout faire pour... » Donc elle me dit bah, « allez-y, mais vous mettez à quatre pattes, vous poussez dès que vous sentez une contraction. En tout cas, dans une demi-heure, là, il va falloir vraiment qu'on y aille. » Bon, d'accord. Et donc là, je me mets à quatre pattes. On m'avait dit que le son grave, le son haut, grave, faisait descendre le bébé. Je me mets à essayer de chanter. Je dis à mon conjoint « mets Barry White sur ton téléphone et mets le téléphone entre mes jambes pendant que je suis à quatre pattes pour qu'il entende qu'à l'extérieur, il y a la fête, c'est Barry White. Et puis moi, je vais chanter en même temps pour les vibrations internes. Et puis toi, tu vas chanter aussi, tu prends la carte au-dessus. » Et donc à ce moment-là, on se met à faire un concert. Et quand la chanson de Barry White s'arrête, là, je me mets à clairement engueuler mon conjoint en disant mais la prochaine chanson, mais vite, mais qu'est-ce que tu fais? Et donc lui, il est en train de mettre du Red Charles ou quelque chose. Et à ce moment-là, je suis plus moi-même, je suis en train de l'embrouiller pour un rien. Donc voilà, il y a des moments d'émotion très forts liés à la sensibilité et au stress de l'instant.
Est-ce que ça a marché, Barry White?
Ça a marché. Alors, une demi-heure plus tard, elle revient et elle me dit « bon bah... vous êtes dilatée à 10 et puis normalement, en général, on attend 2 heures que l'enfant s'engage dans le bassin. Là, vous êtes dilatée à 10 et en plus, il est engagé à la moitié de votre bassin. On pousse maintenant. » Donc, je raconterai cette histoire, c'est sûr, à mon fils, qu'il est venu sur de la musique. En tant que chanteuse, ça compte. Et d'ailleurs, il a fait plein de concerts avec moi quand il était dans mon ventre. Donc, la musique, c'était une belle manière de... clore cet épisode et de déclencher l'accouchement.
Et ensuite, cette hypersensibilité dans le postpartum, voilà, comment vous l'avez senti? Comment ça s'est manifesté pour vous?
Est-ce que je peux faire juste une parenthèse sur la grossesse? Je voulais juste terminer sur cette peur de la grossesse que j'avais, de la grossesse, de l'accouchement et de l'après. Au moment où j'apprends que je suis enceinte, je suis vraiment là où j'avais avant des images... mais horrible quand je pensais à la grossesse et à l'accouchement de moi qui n'y arrive pas, qui meurt en couche le jour J de l'accouchement. Vraiment des trucs, j'avais des images horribles en tête. Et ben, le moment où j'apprends que je suis enceinte, je n'ai que des images de moi qui réussis à accoucher normalement, tout va bien, et j'ai zéro stress pendant toute la grossesse. Vers la fin, vers le 8e ou 9e mois, il y a une vague de stress à nouveau qui revient, parce que les choses deviennent très concrètes et on sent que ça va être là. Donc là, il y a des scénarios un peu catastrophes qui viennent nous réveiller la nuit, d'un semi-cauchemar, semi-pensée consciente. Je l'ai vraiment ressenti, ce truc de... C'est marrant, j'ai toujours eu peur d'être enceinte et depuis que je sais que je suis enceinte, tout s'est envolé à ce moment-là. Comme si le corps aussi disait, bah, ça y est, maintenant vous avez ce petit bébé dans votre ventre, il va falloir en prendre soin et puis tout va bien se passer. Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais par rapport à cette peur de la grossesse et de l'accouchement, elle s'est vraiment envolée au moment où j'ai su que j'étais enceinte.
Et du coup, dans le postpartum, Marie ?
Alors, lorsque le petit bébé est né, on me le met sur moi, je suis avant toute chose hyper fatiguée à ce moment-là, parce que ça fait très longtemps que le travail s'est déclenché et que j'ai poussé quand même 30 minutes, donc j'étais très fatiguée. Je le trouve beau, donc ça m'aide beaucoup. Au moment où on me le met, je le trouve beau. Et en plus, je trouve qu'il a mes yeux. Donc ça, c'est quelque chose qui aide à avoir un attachement et un sentiment d'attachement et de joie. Mais passé cela, c'est surtout le soulagement que ça y est, ce soit fini, que tout le monde aille bien, mais aussi l'envie et le besoin de dormir. Et lorsqu'on nous laisse dans cette chambre de naissance pour faire les pots à pots, etc., nous, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de retourner dormir. Donc, on est à la fois émerveillé par cette petite chose qui est là, mais on a ce besoin d'aller se retrouver dans notre chambre, de se reposer. Par la suite, lorsqu'on remonte dans la chambre, ce qui a donné lieu à beaucoup un sentiment de culpabilité énorme, parce qu'on entend beaucoup de gens qui nous disent « tu verras, lorsqu'on va te le mettre dans les bras, tu ressentiras une vague d'amour comme tu n'as jamais ressenti avant ». Et donc, on s'attend à ressentir des choses, et puis en fait, c'est surtout le soulagement et la fatigue, et du coup, la culpabilité qui vient derrière. En plus, il y a eu un allaitement qui a duré 24 heures, mais qui était hyper douloureux pour moi. J'ai demandé après 24 heures de passer au biberon parce que c'était très, très douloureux. Il avait un tout petit frein de langue, donc il n'arrivait pas à bien téter. Donc, c'était très douloureux pour moi. Et donc, il y a aussi un petit peu cette culpabilité qui vient aussi s'ajouter à cela, même si j'étais très déconstruite par rapport à ça. Et on m'avait surtout dit, zéro culpabilité sur l'allaitement. Moi, j'avais envie d'essayer, mais je m'étais toujours dit, si ça ne marche pas, pas de problème. Mais vu qu'il y avait en plus cette sensation de ne pas avoir le sentiment d'amour qu'on nous vendait, et qu'en plus l'allaitement ne fonctionnait pas, c'était un peu compliqué. Donc beaucoup de pleurs de moi, mais aussi de mon conjoint, qui était pour le coup sur le même fuseau. On était tous les deux un peu pareils, hyper traumatisés, choqués de ces 30 heures depuis le déclenchement. Il y a eu 30 heures en tout. On était tous les deux exténués. Et puis, il est là, dans la chambre. Moi, je dis à un moment donné, c'est marrant, c'est un peu comme un meuble. Il dort, ça dort, mais... Je sais pas, il faut faire quelque chose sur ce petit bébé ou non, alors on le met là. Oui, voilà, mets-le là, ça sera plus simple pour qu'on passe. Enfin, c'est vraiment quelque chose. La première nuit, il est un peu loin de mon lit parce qu'il est calé dans un endroit qui est vraiment pratique pour passer. C'est horrible, peut-être, de dire ça comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et quand il pleure, on y va et puis on fait ses allers-retours, de 3 pas, et puis on met notre main sur lui, on retourne à notre lit. Et en fait, la nuit d'après, une sage-femme me dit « Mais vous voulez pas juste... » même pas, c'est moi qui me dis « Tiens, je vais le rapprocher de moi et le mettre à ma droite pour que je puisse mettre ma main tout le temps sur lui. » Et ça, c'est quelque chose qui m'est venu 24 heures plus tard. Et c'est là où la sage-femme m'a dit « Bah oui, bien évidemment, il était trop loin de vous. C'est un petit mammifère apeuré qui a juste besoin d'une chose, c'est de sentir qu'il est entouré et rassuré. Ça a été aussi un grand marathon pour lui. » Les choses se mettent en place vraiment très lentement. Et c'est dur parce qu'on nous dit que c'est que du bonheur, que c'est que de l'amour et que c'est assez instantané. Or, nous, ça n'a pas été instantané. Peut-être que ça l'aurait été si j'avais accouché en 3 heures, poche des os qui se perce totalement. J'arrive, bim, bam, boum, voilà votre bébé. Pas la même fatigue que celle que j'avais. Je n'en sais rien, on saura jamais, mais... En tout cas, ça a été très culpabilisant. Et là, c'était beaucoup de pleurs et une sensibilité vraiment très, très, très à fleur de peau.
Vous nous disiez au début que vous êtes toujours en congé maternité. Quel âge a votre fils aujourd'hui ?
Il a 2 mois dans quelques jours, un peu plus d'un mois et demi.
Comment, du coup, vous vous sentez ?
Alors, très connectée avec mon fils. J'ai la sensation de... assez naturellement le comprendre. Ça, c'est aussi quelque chose... je me posais la question avant d'accoucher, est-ce que j'aurai la fameuse fibre maternelle. Est-ce que je sentirais les choses comme on nous dit, qu'on nous rassure souvent en nous disant « vous sentirez ». Ça, c'est quelque chose que la question que je me posais. Et finalement, c'est vrai qu'on sent les choses. Enfin, moi, en tout cas, j'ai senti très rapidement des positions qui pouvaient le soulager, ses préférences sur la manière d'être portée à certains moments. Un endormissement qui, je ne sais pas pourquoi, viendrait plus facilement dans cette position que comme ça, avec cette chanson plutôt que celle-là. La sensation que, voilà, c'est plein de choses qui aujourd'hui me font du bien, parce que je me sens en osmose avec mon petit, je tente des choses, ça va être vraiment tout bêtement, hein, même, là je vais l'asseoir sur le coussin d'allaitement pour qu'il fasse sa digestion. Là, je vais plutôt le mettre sur son transat. Là, il va rester plutôt dans mes bras, sur moi. Là, on va faire un pot à pot. Et en fait, à chaque fois, c'est aussi un bébé très coopératif, très gentil qui pleure très peu finalement. Et donc, de voir aussi que toutes nos tentatives, mes tentatives, à chaque fois se soldent par un petit gazouillement de plaisir, un petit béco, ou juste voilà, une sensation que le bébé s'endort facilement, etc. Ça nous aide, ça nous rassure et ça renforce cette sensation d'être connecté avec le petit.
Et émotionnellement et physiquement, comment vous vous sentez ?
Il y a en effet 2-3 sujets qui sont plus à vif et qui sont moins en lien avec le bébé lui-même, plus avec ce que représente la maternité et aussi l'évolution du corps. Moi, déjà, depuis toujours, j'ai une relation au corps un peu compliquée. Je me suis toujours vue plus en chair que je ne le suis sans doute, mais c'est vrai que la rencontre avec ce troisième corps, qui est ni le corps d'avant, ni le corps de pendant la grossesse, c'est vraiment un corps que j'apprends à regarder dans la glace, mais avec encore beaucoup de difficultés. J'ai la peau qui a craqué au 8e mois, et pas grand-chose, hein, pour le coup, c'est 4 griffes de chat de chaque côté autour du nombril, mais c'est quelque chose qui est difficile à regarder dans la glace encore. Un ventre un peu plus mou, forcément, mais qui est difficile à appréhender. Et du coup, face à cela, j'ai l'envie et le besoin de me sentir belle, mais aussi désirée par mon conjoint. Et c'est quelque chose qui, quand ça ne vient pas au moment où on en a besoin, parce que il faut être deux aussi pour avoir des moments d'intimité, et même, je vais envie de dire, il faut être deux et avec un certain nombre de paramètres qui concordent, parce qu'il y a un petit à côté qui dort ou pas. Ça, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, je trouve, de se ressentir bien dans son corps, d'avoir le sentiment que la bulle d'intimité, elle existe à nouveau, et que je pense que j'ai un peu l'envie et l'impatience de retrouver des choses d'avant qui n'ont pas changé. Mais en fait, il faut que je me fasse à l'idée que ça a changé et que la bulle d'intimité, je la retrouverai, mais que ça ne sera pas la même. Que mon corps, je le retrouverai, mais ça ne sera pas le même. C'est un peu ces choses-là où j'ai cette volonté, pareil aussi, de retrouver ma vie sociale. Je suis quelqu'un de très, avec beaucoup d'amis, qui sort beaucoup. Comme je vous le disais, je fais des concerts. J'ai cette impatience de retrouver un certain avant. Mais je dois un peu faire le deuil, je pense, et j'en suis là aujourd'hui. Ce deuil de cet avant. Et alors, pour le coup, par rapport au boulot, j'ai pas du tout l'impatience d'y retourner. On pourrait penser que j'ai l'impatience de aussi retrouver ma place d'avant au boulot. Là, c'est plus parce que je trouve que mon bébé est encore hyper petit. C'est pas tant la version du boulot que plus l'angoisse de le laisser aussi petit à une assistante maternelle. Et voilà.
Merci beaucoup, Marie. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte, Anne-Christine Barbeco.
Merci.
Bonjour. Bonjour Anne-Christine Barbeco.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes doula et sophrologue spécialisée en périnatalité. Vous accompagnez des futurs parents et parents autour de la naissance en ligne et dans la Drôme à Valence. On peut suivre vos activités via votre compte Instagram Anne-Christine Doula et sur votre site internet chemindenaissance.com, chemin au pluriel. Vous êtes également l'autrice d'Heureuse d'accoucher, tout pour traverser l'intensité des contractions et de Accompagner sa partenaire après l'accouchement et de Maternité hypersensible aux éditions Mango. Il est assez fréquent d'entendre parler autour de la grossesse, de l'accouchement ou du postpartum, d'une exacerbation des sens, d'une plus grande labilité émotionnelle. Mais derrière ces manifestations, que se passe-t-il ? Pourquoi parler d'hypersensibilité durant ce processus du devenir mère, du devenir parent ? Quel sens peut-elle avoir ? Et surtout, comment la comprendre, l'appréhender pour pouvoir mieux la vivre et porter un regard différent sur les différentes étapes de ce processus ? Nous allons avec vous, Anne-Christine, changer de paire de lunettes pour regarder autrement tout ce qui se joue dans cette période. Tout d'abord, Anne-Christine, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité ?
Alors, l'hypersensibilité, on en parle beaucoup en ce moment. C'est simplement une autre manière de percevoir le monde. C'est-à-dire que les personnes dites hypersensibles, elles vont avoir, par exemple, des sens plus développés que la moyenne. Ça s'appelle une hyperesthésie. Donc, elles vont peut-être entendre plus de choses, percevoir plus de choses par leur ouïe ou par leur odorat. Voilà, par leur ça passe par les cinq sens. Et puis, il y a aussi une hyperémotivité, sur laquelle on reviendra beaucoup dans la maternité, mais ce sont des gens qui vont percevoir de manière plus intense les événements et donc ils vont avoir des émotions peut-être plus intenses que la moyenne. Aujourd'hui, d'après les études qu'on a, il y aurait quand même 30% de la population qui serait hypersensible, donc c'est pas rien, ce n'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est pas une faiblesse. Voilà, souvent on présente ça, c'est des gens qui pleurnichent, voilà, c'est pas ça, c'est vraiment l'essence même de l'humanité en fait.
Là, dans l'hypersensibilité, donc vous nous parlez à la fois des sensations et des émotions. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres choses qui se tricotent avec ça, en tout cas qui se construisent autour de ça ?
Oui, il y a plusieurs autres caractéristiques, alors qu'on a ou qu'on n'a pas, mais en tout cas ça peut intervenir dans l'hypersensibilité, c'est la quête de sens dont Marie parlait tout à l'heure. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Les hypersensibles, ils sont tout le temps en train de se poser des questions. Pourquoi ça ? Comment ça marche ? Et quel sens ça a ? Où on va ? Voilà. Donc il y a un espèce de bouillonnement incessant dans le cerveau. Ce sont souvent des gens plus intuitifs, voilà, qui sont plus à l'écoute de cette petite voix intérieure qui va les guider. Et puis ce sont souvent des gens plus empathiques. Voilà, parce qu'ils écoutent leur intuition, parce qu'ils sont plus en connexion avec l'autre, ils vont percevoir peut-être plus en fait, les émotions des autres.
À l'instant, vous venez nous donner une fausse croyance, voilà, que ça serait pleurnicher, une faiblesse. Est-ce qu'il y aurait d'autres fausses croyances autour de l'hypersensibilité ?
Je pense que c'est quand même l'essentiel. On voit vraiment les hypersensibles comme des gens faibles, voilà, des gens vulnérables. Et ça, c'est assez lié en fait, à notre société, parce que dans d'autres sociétés, dans des temps différents, dans des lieux différents, l'hypersensibilité, ça peut être quelque chose de tout à fait normal, voire de très positif. Il se trouve que nous sommes dans une société qui pourrait être dite hyposensible, peut-être. On n'attend pas dans notre société des gens qui vont exprimer leurs émotions, en fait. On attend des gens qui sont toujours calmes, on le voit beaucoup, il faut réprimer sa colère, il ne faut pas être triste, il faut être heureux tout le temps. Voilà. Il y a beaucoup cette injonction. Et donc, des gens qui perçoivent plus, qui sont plus dans l'émotion, parce que c'est leur manière de vivre et de percevoir le monde, ça va venir déranger, en fait. Et donc, on va penser qu'ils sont vulnérables, faibles, en fait, parce qu'ils ne savent pas se maîtriser, entre guillemets. On a cette croyance de dire qu'on peut gérer les émotions. On peut apprendre ça, c'est-à-dire qu'on nous dit il faut apprendre à gérer ta colère. Tu ne peux pas te mettre en colère comme ça. Une bonne mère, en particulier, ça ne se met pas en colère. Mais en fait, une émotion, ça ne se gère pas. C'est juste un signal neurobiologique qui vient nous interpeller sur quelque chose sur lequel on voilà, on n'est pas forcément en adéquation, enfin, qui vient nous faire travailler, en tout cas. Et si on commence à gérer, ça veut dire qu'on va crisper notre attention sur cette émotion et on ne va pas se laisser traverser, comme disait Marie tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée, c'est, OK, l'émotion, elle vient, elle passe, j'accueille, j'essaie d'en tirer tout ce que je peux en tirer. Des fois, c'est pas simple, mais voilà. En tout cas, elle a toujours quelque chose à m'apprendre et je la laisse passer. Voilà. Du coup, on ne gère pas une émotion.
On se laisse traverser par elle.
Ouais.
Quelles sont les caractéristiques, c'est-à-dire comment elle va se manifester, cette hypersensibilité? Alors, à travers les sens, Marie nous parlait d'une augmentation de l'odorat, par exemple. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Alors, d'ailleurs, je crois que ça, c'est un terme assez technique.
Oui, ça s'appelle l'hyperosmie. J'espère que je prononce bien. Ça, c'est assez caractéristique de la maternité. Il y a énormément de femmes qui ont un odorat qui se développe beaucoup, en fait, pendant la grossesse. Et alors, l'exemple de la cigarette, c'est vraiment l'exemple type. Elles sont capables de détecter une cigarette à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Mais ça peut être aussi une sensibilité à la lumière, une sensibilité aux images. Et souvent, on voit les femmes enceintes qui font un espèce une diète des informations, une diète des journaux télévisés, parce qu'en fait, ça devient insupportable de voir ça. Et ça, c'est de l'hypersensibilité. On ne peut plus voir toute cette misère du monde, toute cette violence, c'est quelque chose qui nous agresse profondément. Et puis, il y a bien sûr le goût qui change, et du coup, les nausées qui vont avec aussi. Alors, l'odorat et le goût, quand ça change, c'est vrai que les nausées, on dit souvent que ce sont les hormones, et c'est vrai, hein, voilà, les hormones participent à ce phénomène-là, mais il y a aussi le fait que, en percevant plus de stimuli extérieurs, on arrive à un phénomène de saturation très rapide, beaucoup plus rapide qu'en temps hors grossesse, on va dire. Et ça peut venir nous remuer et donc nous donner des nausées, en fait, parce qu'on n'en peut plus. Dans le traitement de l'information, en fait, tout le monde reçoit le même nombre de stimuli extérieurs, sauf que, en fait, notre cerveau, en temps normal, il est fait pour trier. OK, le bruit au fond, c'est pas la peine que je le prenne en compte. L'odeur, machin, je la prends pas en compte. Je prends ce qui est essentiel. Et en fait, la femme qui est enceinte, elle va ouvrir ces perceptions-là. Et c'est comme si ce tamis, en fait, il laissait placer plein de choses, beaucoup plus qu'avant. Et donc, dans le traitement de l'information, eh ben, on sature très vite et on arrive à des montagnes russes émotionnelles parce que ça devient trop. Et c'est souvent ça qui ressort dans la maternité. C'est trop, en fait. J'ai trop d'émotions, j'ai trop de tristesse, j'ai trop de joie, j'ai trop de colère, trop... C'est comme si elles percevaient tout, elles n'arrivaient pas, en fait, à se protéger.
En quoi la grossesse, elle va favoriser, accentuer ou amener cette hypersensibilité? Parce que tout le monde n'est pas forcément hypersensible de base.
Non, non, loin de là.
60% à c'est peu ça. Près, quoi. 70%, si 30% de la population l'est.
En fait, c'est comme s'il y avait... Je ne parlerai pas d'hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité, on va dire que c'est plus un tempérament, un état inné, on va dire. Là, c'est une hypersensibilisation qui est physiologique. C'est-à-dire que c'est comme de l'hypersensibilité, mais qui ne va pas durer. Pas trop longtemps. Qui est temporaire.
Ça ne va pas s'inscrire comme un trait de fonctionnement, une personnalité.
C'est ça, exactement. Donc, il y a une espèce de parenthèse, en fait. Alors, une grande parenthèse, hein, parce que ça ne s'arrête pas au moment de l'accouchement. On l'a bien vu avec le témoignage. Et le postpartum, il peut durer longtemps. On est sur... moi, je dirais, le minimum, c'est 9 mois. Hein, 9 mois dedans, 9 mois dehors. On est plus sur 1 an, 2 ans, parfois 3 ans. Donc, c'est des parenthèses quand même assez longues. Donc, c'est quand même bien, du coup, de pouvoir les vivre au mieux. En fait, je me suis aperçue qu'elle était physiologique parce que ça fait 8 ans que j'accompagne les femmes et dans leur maternité. Et en fait, au début, je me disais, mais en fait, celles qui viennent vers moi, elles sont toutes hypersensibles. Et je me dis, c'est bizarre. Alors, c'est peut-être parce que je le suis que voilà, j'attire ça. Et puis, en fait, en commençant à questionner, à me renseigner, à rencontrer des gens... En fait, non, c'est toutes les femmes qui traversent ce moment de la maternité qui ont cette hypersensibilité, qu'elles soient hypersensibles ou pas. Donc, on a des femmes qui sont hypersensibles, qui le savent, qui sont enceintes et qui, du coup, soit... Alors, ça explose, c'est fois mille. Soit, au contraire, ça peut se refermer. J'ai déjà vu, c'est assez intéressant à voir. Elles ont cette capacité à se recentrer sur leur bébé. Elles ont moins d'hypersensibilité. Soit, on a des gens qui sont hypersensibles mais qui ne le savaient pas, qu'il ne percevait pas. Et la maternité vient faire mettre en lumière, en fait, cette partie-là d'elle-même. Alors qu'elles acceptent ou pas, mais en tout cas, ça met en lumière cette partie-là. Et puis, il y a des femmes qui ne sont pas hypersensibles et puis qui vivent, par contre, cette période d'hypersensibilisation. Et là, c'est très déstabilisant parce qu'elles n'ont pas du tout l'habitude, en fait, d'autant d'émotions, d'autant de sens, d'autant d'intuitions. Elles ne se reconnaissent plus.
Vous, Marie, est-ce que vous pensez que vous êtes hypersensible, que c'était déjà quelque chose de présent dans votre fonctionnement avant de devenir mère?
par une grande sensibilité, une empathie, une capacité à se laisser traverser par l'émotion, je dirais oui. En revanche, sur la partie plutôt sensorielle, j'aurais pas tendance à dire que je me définis comme une hypersensible. Et on entend, c'est vrai, beaucoup de choses aussi, beaucoup de définitions différentes sur ce qu'est l'hypersensibilité. Vous parliez d'une pensée qui est que l'hypersensible est plutôt faible ou quelqu'un qui pleurniche. Moi, c'est marrant, parfois j'ai aussi l'impression que c'est un peu un prétexte et que tout le monde se revendique au contraire hypersensible et que c'est presque à la mode de se dire hypersensible. Et donc,
comme pour se dédouaner justement de ne pas être faible.
Peut-être, alors c'est ça. Ou alors au contraire qui, comme vous le disiez, c'est peut-être l'essence humaine et c'est une force d'être hypersensible. Et ces personnes du coup se disent « Ah ben moi je suis hypersensible ». Mais en tout cas du coup je... Quand on parle d'hypersensibilité, je ne me sens pas être en première ligne de mire sur une grande hypersensible. Voilà. Mais par contre, oui, je sais que j'ai toujours eu l'alarme facile, mais qui vraiment est pour moi une façon de vivre l'émotion, qu'elle soit triste ou heureuse. Je suis quelqu'un... vers qui on vient souvent se demander des conseils. Je pense avoir une empathie assez grande pour qu'on vienne se confier à moi.
Dans ce qu'elle permet, Anne-Christine, vous nous disiez voilà, qu'elle a un rôle, cette hypersensibilisation ou l'accentuation d'hypersensibilité, si elle est déjà présente précédemment. Quelle est sa fonction ?
Alors, je dirais que pendant la grossesse, en fait, sa fonction, c'est de venir explorer des zones qu'on n'a jamais explorées chez soi, en fait. C'est-à-dire que avoir des émotions plus intenses que d'habitude, ça va venir aller nous chercher dans nos zones d'ombre, dans des zones qu'on ne connaît pas. Tiens, là, je suis très triste alors que j'ai tout pour être heureuse, entre guillemets. C'est quoi cette tristesse, en fait ? Qu'est-ce qui vient me toucher, là, en fait ? Et ça, c'est très intéressant d'aller, de faire un petit pas de côté, en fait, dans ces émotions et d'essayer de trouver quels sont les événements qui viennent déclencher ça, parce que ce sera un atout derrière pour la parentalité. C'est-à-dire qu'on va savoir ce qui vient nous chercher ou pas. Voilà. Et donc, on va pouvoir peut-être être moins dans la réaction en direct, mais pouvoir prendre du recul, en fait, quand l'événement sera là. Ensuite, ça va venir... en fait, ça vient soutenir le processus de matrescence. Qui va commencer en fait dès le désir d'enfant, parce que là on n'en a pas parlé, on a parlé de la grossesse, mais en fait dès le désir d'enfant il y a un processus de matrescence. Je ne saurais pas dire s'il y a de l'hypersensibilité avant ou pas, mais en tout cas cette hypersensibilité, elle est là pour que la femme s'adapte pour devenir mère en fait, de cet enfant qui va naître. Et c'est ça la fonction première en fait. Donc on a parlé de l'attachement tout à l'heure, mais il y a un processus psychique. Le docteur Ugren, il dit que la maternité, c'est une psychothérapie accélérée. Et moi, j'adore ce terme-là, parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on travaille en 9 mois ? On crée un enfant, mais alors on se crée aussi soi-même, on se redécouvre, on renaît une nouvelle femme. Quoi.
Oui, et puis on sait aujourd'hui à quel point il y a un remaniement psychique, identitaire, que les cartes, elles sont redistribuées.
Complètement.
Ça, c'est vraiment le bouleversement psychique du devenir parent, que ce soit pour la mère ou pour le père.
Et en fait, le chemin pour accéder à ça, c'est cette hypersensibilisation, cette intuition qui s'affine, ces perceptions qui deviennent plus subtiles, cette nouvelle perception du monde, c'est ce qui amène en fait à cette transparence psychique de la maternité.
Oui, en tout cas, les deux se soutiennent mutuellement, finalement.
Oui.
Donc, peut-être pour rappeler la transparence psychique et cet état un peu particulier, en effet, où il y a une censure psychique moindre et qui permet à la femme d'avoir accès à des souvenirs de sa prime enfance, bien souvent, de se re-questionner sur ses liens avec ses parents, etc. En tout cas, de réinscrire ce qu'elle est en train de vivre par rapport à sa propre histoire.
Mm. Tout au long de la grossesse, on voit les femmes se transformer. En fait, elles se tournent vers l'intérieur, elles rentrent en elles-mêmes, d'abord pour se connecter à cet enfant, et puis aussi pour se connecter à elles-mêmes, en fait, à cet enfant qu'elles ont été, et à cette mère qui est en devenir. Et donc, voilà, l'hypersensibilisation, elle est là aussi pour cette reconnexion à la fois à travers les émotions et à travers le corps, parce que la reconnexion au corps, elle est vraiment, j'allais dire importante. En fait, elle est incontournable, forcément, puisque ça passe par le corps.
Tout cas, dans ces modalités de conception et de devenir parent-là.
Complètement, oui, oui.
Quoique, même dans des adoptions, voilà, il peut y avoir des dimensions du corps très importantes.
Oui, aussi, ça peut, oui, ça peut arriver. Et du coup, ce passage par le corps, il vient donner une autre dimension, en fait. Et il est vraiment indispensable. Alors, aussi parce que une femme qui va accepter ses nouvelles perceptions, percevoir son nouveau schéma corporel, être en accord avec ce nouveau corps, bah, l'accouchement, il va être sûrement plus facile. Et puis, le postpartum, il sera peut-être plus léger aussi. C'était intéressant, l'histoire de Marie, sur les trois corps. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il y a eu un corps avant, il y a le corps de l'accouchement, il y a ce corps après. Et en fait, je suis les trois en même temps et en même temps, je suis aucun. Et c'est hyper perturbant, en fait. Les femmes, elles se regardent. Alors, j'allais dire, elles se regardent dans un miroir, mais des fois, elles peuvent même pas. Parce qu'en fait, c'est tellement difficile de dire, mais en fait, c'est pas moi en face, là. C'était pas comme ça. Alors déjà, il y a deux jours, j'avais un ventre énorme avec un bébé dedans. Maintenant, j'ai un ventre toujours énorme avec un bébé dehors. C'est quoi le truc ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Et puis, ça dure. Et dans notre société, on nous fait croire que, en fait, ça revient comme un claquement de doigts, quoi. Vous sortez de la matière, vous remettez votre petit 36, là, et vous ressortez toute pimpante. Mais la vraie vie, c'est pas ça, en fait. Ça
peut arriver. Le jean de grossesse, on peut le porter très longtemps.
Très longtemps, je confirme. Alors, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver et c'est juste merveilleux quand ça arrive, c'est OK.
Moi, c'est vrai que j'ai eu la sensation de perdre beaucoup de poids à l'accouchement. Mais c'est une autre peau, c'est une quelques kilos en trop, donc on rentre pas totalement dans tous ces vêtements d'avant. Et on est en plus dans cet entre-deux encore plus... encore plus compliqué, c'est-à-dire que c'est pas les vêtements d'avant, c'est pas non plus les vêtements de grossesse. Donc qu'est-ce que je fais ? Je refais du shopping pour un entre-deux que j'espère ne durera pas longtemps, en tout cas le moins longtemps possible. Donc, y a un entre-deux très compliqué à vivre.
Et c'est vrai que c'est pas toujours une histoire de kilos en fait. C'est une histoire de forme aussi. Le corps, il change. Voilà.
Le bassin, le bassin s'élargit, pardon. Oui, c'est vrai que
Et c'est ça la matrescence aussi, hein, c'est la contraction de la maternité et de l'adolescence. C'est exactement ce qui se passe quand on est ado, on change de corps et du coup en même temps on change notre psychisme. Enfin, il y a une transformation qui vient. Je ne saurais pas dire qui vient en premier entre le corps et l'esprit, mais en tout cas il y a deux processus qui ont lieu en même temps, qui sont indissociables. Et dans la maternité c'est pareil, ce corps il est là, il change, on ne le reconnaît pas, mais qui je suis, cette nouvelle femme qui est là, c'est qui en fait ? Et donc, c'est un processus qui est souvent pas simple. On nous le propose comme facile et super, et c'est que du bonheur. Et oui, c'est du bonheur, oui, mais pas que. Et il faut vraiment déculpabiliser, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui n'arrivent pas comme dans les films. Il n'y a pas forcément le coup de foudre avec le bébé. Tout à l'heure, Marie, elle disait... on a souvent cette représentation-là de je vais tomber amoureuse de mon bébé tout de suite, je vais le voir. Et des fois, ça arrive et c'est très bien. Et puis souvent, ça n'arrive pas.
Oui, d'ailleurs, souvent, je dis à mes patientes, des coups de foudre dans la vie, généralement, on n'en vit pas beaucoup si on a la chance d'en vivre. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, généralement, dans la vie, quand on se rend compte, on prend le temps de faire connaissance, de se découvrir. Et ça prend du temps. Et c'est pareil avec un bébé. Oui. Voilà. Il faut du temps.
Pardon. Et ce bébé, on l'a imaginé. On a imaginé qu'il serait comme ci, qu'il serait comme ça, qu'il dormirait comme ci, que machin.
On a même commencé à tisser une relation in utero. Moi, j'ai fait en plus de l'autonomie, donc j'avais même la sensation de connaître déjà des aspects de son caractère que je m'imaginais. Ah, il est joueur, je l'appelle à droite, il vient à droite. Ah, il est comme ci. Et en fait, c'est une autre rencontre. On a la sensation d'avoir... On projette même des choses in utero, peut-être trop projetées finalement. Une autre rencontre. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Et par rapport à ce besoin aussi de se reconnecter avec soi-même, mais aussi avec ses parents et toute son antériorité, je l'ai ressenti très, très fort. J'ai eu une envie de poser plein de questions à mes parents sur leur jeunesse, mais aussi de retrouver des vidéos de moi petite avec eux, etc. Et ça a été bouleversant de voir des cassettes où j'ai 3 ans et où je suis avec ma maman. Et dans mon esprit, comme moi j'ai un modèle de famille où c'est plutôt papa père au foyer et ma maman en indépendante qui partait tôt le matin et qui revenait tard le soir, dans mes souvenirs de 8, à partir de voilà, 7, 8, 9 ans, j'ai plutôt un lien avec mon père hyper fort et des souvenirs d'éducation plutôt en lien avec mon père. Quand je vois ces vidéos où c'est ma maman qui me donne à manger, enfile mon pyjama, m'amuse, joue avec moi, c'est des images que je n'avais jamais imaginées, qui sont hyper bouleversantes pour moi à ce moment-là. Et une culpabilité énorme d'avoir peut-être été trop dure avec ma mère sur certains aspects. Et en fait, ouais, vraiment, c'était bouleversant. Et je me suis dit, mais bien sûr, en fait, que ma mère s'occupait de moi, me nourrissait. C'est comment j'ai pas pu... Comment je me suis imaginée toute... Enfin, pas imaginée, mais en tout cas, pour moi, c'était pas le rôle de ma mère, celui-ci. Alors qu'en fait, si... Et du coup, ça remet beaucoup de choses en question et ça fait que j'ai beaucoup plus connecté avec ma mère aussi pendant la grossesse et depuis que mon fils est né et c'est grand-mère Gaga d'ailleurs. Et là où et mon père est plus en retrait, plus timide de le prendre dans les bras, etc. Parce que c'est aussi son caractère. Mais en tout cas, ce besoin de comprendre, reconnecter, retrouver peut-être des archives.
En tout cas, là, vous nous dites vraiment très bien, Marie, comment, en devenant mère et père d'ailleurs, on est reconnecté à sa propre histoire et à sa propre histoire de naissance. Et comment de pouvoir aller explorer ça permet de donner du sens ou permet de trouver des ancrages pour soi-même, voilà, se transformer. Comment là, vous dites finalement, en voyant votre mère, peut-être là, ça vous a permis de reconnecter à ce que vous avez vécu, ce qu'elle vous a transmis dans ces moments-là. Et donc, comment ça, vous pouvez le faire avec votre enfant.
Oui,
totalement. Comment il peut y avoir de la continuité.
C'est vrai.
Pendant la grossesse, alors souvent cette hypersensibilité, elle peut alors, voilà, générer beaucoup de mots, M-A-U-X, et de mots du coup, M-O-T-S aussi. Parfois elle est très envahissante. Quel regard peuvent avoir les femmes, voilà, sur ces mots justement, qui sont parfois difficiles à vivre à ce moment-là?
Alors, je vais prendre l'exemple des nausées dont on a parlé tout à l'heure. On va dire que ce n'est pas très agréable et que du coup, les femmes, forcément, on n'aime pas avoir des nausées, des vomissements, etc. Mais si on fait un petit pas de côté, qu'on se demande en fait ce que ça vient nous dire, et peut-être qu'on aura une réponse et peut-être qu'on n'en aura pas. Et si on n'a pas de réponse, c'est OK aussi. Mais c'est juste en fait prendre conscience de ce qui se passe et de se dire, bah, en fait, peut-être que là, j'ai des nausées parce qu'en effet, je perçois plus de choses que d'habitude et que en fait, c'est trop pour moi. C'est pas possible. L'expliquer juste hormonalement, ça peut le faire, mais je pense qu'il faut y mettre du sens aussi. La fatigue de la femme enceinte, en particulier au premier trimestre, qui est souvent tue, est-ce qu'on peut faire un pas de côté aussi, se dire, OK, c'est pas juste une fatigue hormonale, de développement de bébé qui est présente, hein, mais est-ce que c'est pas aussi une invitation à changer de rythme et à se mettre à un rythme un peu plus en adéquation avec la création de la vie que le rythme que nous propose la société aujourd'hui. Et si on arrive à écouter ça, et ben peut-être qu'on va pouvoir changer des petites choses dans sa vie, ralentir un peu. Parfois, on ne prête pas attention à ça et on a parfois des femmes qui, du jour au lendemain, à 6 mois de grossesse, sont arrêtées par leur médecin qui leur dit « Maintenant, c'est terminé, vous rentrez chez vous et vous couchez. » Et vous restez couchées tout le long de la grossesse. Et là, c'est un tsunami pour elles. Parce que souvent, elles sont hyperactives. Et qu'elles ont besoin de ça. Et en fait, le corps dit, en fait, stop là. Là, tu es en train de créer la vie, de porter un enfant. Et où sont les priorités?
Moi qui disais que j'attendais absolument de le sentir bouger dans les premiers mois, parce que je disais que j'étais enceinte, mais je prenais pas tant de ventre que ça. Et en plus, je ne le sentais pas. Donc, j'étais enceinte sur le papier, mais ça ne se voyait pas et je ne le ressentais pas. Je suis aussi de ces personnes qui, parfois, poussent trop fort le rythme, font trop quand elles se mettent au sport, elles y vont trop vite, trop fort d'un coup. Le boulot, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai un peu peur d'y retourner. J'ai un truc un peu boulimique, amour, aversion en même temps. Donc, en tout cas, j'ai eu le Covid à un moment donné pendant ma grossesse. C'était autour du 3e ou 4e mois. Donc, j'ai été arrêtée une semaine, le temps du Covid. Et je me souviens de cette scène où je suis dans le canapé, j'ai les mains sur mon ventre Et en fait, c'est là où j'ai ressenti pour la première fois mon bébé bouger. Et mon conjoint m'a dit, bah, je pense qu'il était juste en train de te dire, calme-toi et écoute-moi. Hey, je suis là, mais prends le temps de m'écouter et de m'entendre. Et c'est vrai que j'ai eu un peu cette sensation. En tout cas, j'ai voulu trouver du sens dans cette pause forcée par le Covid, qui finalement a permis que je prenne le temps de mettre les mains sur mon ventre et de sentir le bébé bouger.
Souvent, on ne prend pas le temps, en fait, parce qu'on est dans un rythme de vie. Voilà, enfin, on y va, on travaille, on prend le métro, on a plein de choses à faire. Parfois, il y a des fratries aussi avant, donc il faut s'occuper des aînés, enfin, c'est compliqué. Mais je pense que cette hypersensibilisation, elle invite vraiment à ça, c'est-à-dire à se poser. Les trois premiers mois, cette fatigue, c'est vrai qu'en fait, il y a le petit truc bleu là, sur la petite barre bleue qui nous dit qu'on est enceinte, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres symptômes. Alors parfois, le corps commence à changer quand même assez rapidement, mais parfois pas.
D'autant que je n'ai pas eu de nausée du tout, moi, donc j'avais vraiment rien.
Donc il n'y avait rien. Mais par contre, la fatigue, elle est là pour dire « Eh oh, en fait, non, ce n'est pas une blague. » Il y a bien quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur, et là, bah, y a une vie, et toi, tu vas devenir mère. Et donc, je pense que de passer un petit peu sur le côté, de se dire « Ok, mais cette fatigue, en fait, bon, c'est pas agréable. C'est pas chouette de m'endormir en réunion quand je suis au boulot. Mais en même temps, bah ouais, ça vient me rappeler que pendant ces 9 mois, je fais quelque chose d'extraordinaire, en fait. Je suis porteuse de vie. Et ça n'arrivera pas beaucoup, en fait, dans une vie de femme. Il y a très peu d'occasions, quand même.
Donc là, vous nous dites bien, Gretzing, qu'on peut changer de regard sur tous ces mots qui, parfois, sont très pénibles, très douloureux, même, à vivre, ou très bouleversants, pour pouvoir les regarder un peu différemment, les accueillir un peu différemment, pour être peut-être moins en lutte aussi contre eux.
C'est ça. Plus on va lutter, en fait, et plus ils vont être là, ces mots M-A-U-X. Plus on va être crispé, arc-bouté, en disant non, je veux pas, je veux pas. Et en fait, on va pas se laisser traverser par tout ça. C'est pas confortable de se laisser traverser. On en reparlera pour l'accouchement après. C'est pas confortable. Mais en même temps, ça dure moins et ça vient nous apprendre quelque chose. Alors que si on tient bon, bah en fait, on est dans la lutte et on n'apprend pas grand-chose. Et puis dans la lutte, il y a toujours un perdant. Et bon, des fois, on perd.
Alors justement, pendant l'accouchement, Christine, comment se manifeste l'hypersensibilité à ce moment-là?
Alors, pendant l'accouchement, la femme, elle va rentrer dans le processus de l'enfantement et elle va complètement s'ouvrir. Alors quand je dis s'ouvrir, ça veut dire qu'elle va ouvrir tous les pores de sa peau, en fait, pour percevoir vraiment autrement le monde et entrer dans un état de conscience modifié. C'est ça qui soutient le processus physiologique, en fait. Alors je vais parler de physiologie, puis on parlera un peu de péri après, mais dans la physiologie, en fait, il faut que ce néocortex, là, ce mental, ce raisonnement tombe, n'existe plus et qui laisse la place en fait à un processus réflexe qui est l'accouchement. C'est un processus réflexe. Et
donc on doit le corser accoucher.
Exactement. Et donc on ne peut pas gérer un accouchement. C'est comme les émotions en fait. On ne gère pas un accouchement, on ne le contrôle pas, mais par contre on peut soutenir le processus ou parfois on peut au contraire le perturber. Voilà, donc ça c'est important de savoir comment on le soutient, comment éventuellement il peut être perturbé. Et donc la femme, physiologiquement, à ce moment-là, petit à petit, elle s'ouvre, elle perçoit plus de sons, elle perçoit beaucoup les émotions. Il y a une espèce de synchronisation avec les personnes qui sont autour d'elle, qui vont se faire. Donc on dit toujours, enfin Michel Audin, qui est un grand médecin
spécialiste de la naissance.
Voilà, spécialiste de la naissance, j'aime beaucoup. Il dit l'adrénaline est contagieuse. Et en fait, quelqu'un qui est stressé à côté d'une femme enceinte, il aura beau faire un grand sourire, un peu crispé, mais sourire en disant non, mais elle voit rien, elle voit rien. Bah, en fait, même si elle a les yeux fermés, elle va ressentir ce qui se passe. Donc elle rentre dans une salle de naissance, elle sent. Elle sent que la sage-femme, elle a eu un coup dur juste avant et que ça ne va pas, ou au contraire, elle sent qu'elle est hyper zen et que ça va bien se passer. Et donc l'idée, c'est pendant toute la grossesse, de savoir ce qui va venir réconforter la femme et lui assurer un soutien émotionnel. Je donne des exemples tout bêtes, mais j'aime l'odeur du miel. Voilà. Je sais que l'odeur du miel, c'est un truc, c'est une petite madeleine de Proust, là, et ça me fait du bien. Et ben, quand je vais venir dans la salle de naissance, je vais amener cette odeur-là avec moi. Je vais pouvoir amener une image qui me fait du bien, je vais pouvoir amener une musique qui me fait du bien, ou si je suis vraiment sensible au bruit, eh ben je mets des boules-caisses. Comme ça, je sais qu'il n'y aura pas de sons extérieurs qui vont venir me perturber. Et quand la femme, en fait, elle est dans cette sécurité émotionnelle, eh ben en fait, elle se laisse traverser par le
processus. Et sensorielle, là, du coup,
oui,
dans ce que vous venez de
dire. Oui, complètement.
La sécurité sensorielle va amener de la sécurité émotionnelle.
Exactement, exactement.
Mon conjoint, alors parenthèse, je ne sais pas si c'est une anecdote que vous aviez déjà entendue, mais lorsque je, peut-être même avant que je tombe enceinte, lorsqu'on regardait une série ou un film ou même un one-man show et qu'il y avait des scènes qui me faisaient rire et qui nous faisaient rire, mon conjoint notait l'extrait et prenait une note sur son téléphone. Il notait les secondes qui nous avaient fait beaucoup rire. Et en fait, il a fait un montage de 20 minutes, de moments. Mais ça fait peut-être un an et demi, deux ans qu'il fait cette compile. Et il me l'a montré. Et on s'était dit, je savais qu'il faisait ça, on s'était dit en rigolant, tu me la montreras quand je serai au plus mal pendant mon accouchement. Mais vraiment, je pense qu'on s'était dit avant que je tombe enceinte. Et il me l'a montré au moment où, je crois, j'attends la péridurale. Et donc, c'est des moments où les contractions sont assez intenses, mais ça ne prend pas du tout. Je lui dis, ça, c'est pas drôle. Pourquoi t'as mis ça? Je sais pas, c'est toi qui... c'est la merde. Voilà. Et donc, du coup, très bien. Le truc ne prend pas du tout. Il y a certaines blagues qui me font rire, mais il me le remontre. Je redemande de revoir la vidéo plus tard, sous péridurale, 3 ou 4 heures plus tard. Et là, ça a été un moment super. Et ce moment de réconfort, alors on l'avait imaginé, on pensait avant, mais ça a fonctionné. Et c'est vrai que c'est très réconfortant et ça a bien fonctionné. Oui. Se dire que on avait prévu un moment pour ramener de la légèreté dans tout ça.
Oui, en tout cas, là, vous dites bien l'une et l'autre comment l'importance là de s'entourer, comment on peut le préparer, l'anticiper en amont, et puis de l'importance de pouvoir identifier aussi. Et là, j'entends le rôle que peut avoir le père ou le conjoint ou la conjointe dans ce moment-là, de pouvoir aussi un peu filtrer peut-être ce qui peut être perçu des professionnels, des soignants, qui ont aussi leurs histoires, les difficultés dans la salle de naissance d'à côté. Qui font aussi sous certains aspects comme ils peuvent, on leur en demande beaucoup aussi, pas être toujours pleinement disponible ou dans la bonne émotion qui va aider ou au contraire venir perturber ou mettre en difficulté la femme qui est en train d'accoucher.
Le ou la partenaire, ça va être un peu le gardien du temple en fait. Il va assurer la sécurité. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme c'est le gardien qui va se mettre quelque part entre les professionnels de santé et la femme. Non pas parce qu'il veut s'immiscer, mais simplement parce que si on commence à parler à une femme qui est en train d'accoucher, elle réactive son néocortex et que du coup, elle sort de l'accouchement. Mmh. Elle ne peut pas sortir sa carte vitale alors qu'elle est en train de vivre une contraction. Ce n'est pas possible. Donc, c'est à lui en fait, de se dire « Ok, moi, je fais ça, je gère. » Et puis, s'il y a une information qui est à donner, je lui donne. Et en fait, lui, quand il va lui dire, d'abord, elle connaît sa voix, il va trouver les mots qui vont bien. Donc, ça ne va pas réactiver le cerveau de la même manière, en fait. Et elle ne sortira pas de ce processus. Parce que, alors, sortir du processus, ce n'est pas non plus un problème. Le truc, c'est d'y revenir, en fait. Ouais. Et donc, parfois, ça peut être compliqué. Des fois, c'est simple, mais parfois, ça peut être compliqué.
Mon conjoint a eu physiquement ce rôle, se mettre entre le corps médical et moi au moment de la pause de la péridurale, qui a été très stressante pour moi parce qu'elle était pendant des contractions hyper intenses. Et pour le coup, on parlait aussi de ressentir un peu les gens qui nous entourent. Là, je faisais face à un anesthésiste, sans doute un peu anxieux et stressé par son geste très technique. Et du coup, qui était un peu plus abrupt. Et je lui dis, je suis en pleine contraction, il ne me propose pas d'attendre une minute. Il me dit, d'accord, faites quand même le tour rond. Donc, c'est quelque chose de... voilà. Et je me suis dit à ce moment-là, oh non, ils sont tellement super partout dans cette maternité. J'espère que ça ne va pas être le premier qui va être l'exception. Mais... Et en fait, juste après avoir posé la péridurale, il est redevenu très gentil. Je pense qu'il était stressé par son geste technique qu'il ne devait pas rater. Et au moment où il essaye de me poser la péridurale, moi, je n'y arrive pas du tout. Et là, on commence presque à s'engueuler. C'est-à-dire que lui me dit « Ah non, mais là, ça ne va pas le faire. » Et moi, je lui dis « Mais comment ça, ça ne va pas le faire ? Vous entendez quoi ?» J'ai à un moment donné un réflexe, ma jambe, comme une décharge électrique, part toute seule à droite, donc, quand il pique. Et donc, il me dit « Vous avez bougé ?» Je lui dis « Mais oui, mais vous prenez une décharge électrique, vous allez me dire que vous n'allez pas bouger, c'est un réflexe. » Et là, mon conjoint prend ma tête, met son front contre mon front et m'a véritablement hypnotisée. Il me disait ces phrases, mais qui après sont devenues juste une onde hertzienne. « Tu sens que mon front contre ton front, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a mon front contre ton front. » Et je me souviens, je fermais les yeux et j'avais ce noir cosmique et sa voix qui à la fin n'étaient même plus des mots qui s'enchaînaient avec un sens. Et j'entendais juste ça. Et il a dû me le répéter. Lui m'a dit, je pense que ça a duré peut-être 30 secondes, une minute, où je te disais cette phrase. Il n'y a que ton front contre mon front. Il n'y a rien. Tu sens ma peau contre ta peau. Et je n'ai pas bougé, mais tellement que lui s'est inquiété en se disant, elle ne bouge vraiment plus, quoi. Est-ce qu'elle est ce genre-là ? Il m'a piqué. Ça s'est très bien passé. J'ai ouvert les yeux et mon conjoint a fait un malaise. Parce que je pense qu'il avait tout donné, qu'il était soulagé que ce soit derrière nous. Et c'est lui qui, à un moment donné, il me dit « ça te dérange si je sors de la pièce ?» Et moi, je ne comprends pas qu'il fait un malaise. Et je lui dis « bah oui, oui, ça me dérange que tu sors de la pièce ?» Et il me dit « bon, bah tant pis. » Et il part. Et là, c'est l'infirmier qui dit « ah non, non, vous n'allez nulle part, monsieur, vous êtes blanc comme un cachet. Vous vous mettez là et ça a été mieux. » Mais c'était un moment très, très intense. Et là, son rôle c'était mon rock.
Marie a utilisé aussi un autre outil pour modifier, transformer ses perceptions, la question du champ. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés à ce moment-là de l'accouchement pour justement modifier cette hypersensibilité ou en tout cas avoir une action dessus pour mieux la traverser ?
Alors, c'est toujours revenir au corps. Donc, je pense que le meilleur outil, c'est la respiration. C'est le plus facile. Et le son, c'est un merveilleux outil de respiration. Donc, c'est toujours plus intéressant pour une femme de faire un son plutôt que de crier dans un accouchement, parce que d'abord, elle va s'oxygéner. Alors, quand elle crie, elle va suffoquer plutôt. Et puis, elle va venir détendre les tissus, elle va venir bercer le bassin, elle va venir ouvrir. On dit que la bouche d'en haut et la bouche d'en bas sont reliées. Et donc, quand on ouvre la bouche d'en haut en faisant des « ouah », ben on va aller dilater plus rapidement. Donc, le son, c'est un merveilleux outil. Moi, je parlerai de la danse aussi. Voilà. Alors, ce n'est pas de la danse, forcément, ce n'est pas de la Zumba. Quoique, pourquoi pas, au début, en tout cas. Mais ça peut être une danse, des petits mouvements d'ondulation, en fait, pour donner de la souplesse, en fait, à la mobilité. Et puis, ça finit par être une danse intérieure, en fait.
Par rapport à la douleur, alors d'ailleurs, Marie, vous disiez que vous aviez très très peur d'avoir mal, que ça soit douloureux. Quels pourraient être là les outils, les pistes ?
Alors les pistes, d'abord, c'est qu'il faut détricoter, je pense, nos croyances. C'est-à-dire qu'en France, on considère beaucoup que l'accouchement, il est douloureux et dangereux. C'est un espèce de leitmotiv, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Il y a plein d'autres pays où on ne considère pas l'accouchement comme ça. Et pourquoi, comment une femme française, elle n'est pas a priori plus douillette qu'une femme britannique ou hollandaise ? Et pourtant, il y a beaucoup moins de péris, en fait, dans ces pays-là. Pourtant, elles sont faites de la même manière, ces femmes. Donc, il y a aussi quelque chose de culturel, en fait, qu'il faut essayer de... Vous voyez, de détricoter, comme je disais. C'est-à-dire, c'est... qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors, il y a quelque chose qui relève de la société. Il y a aussi quelque chose qui relève de la lignée, en fait, de la lignée familiale. Et Marie, elle en parlait un petit peu donc, sur sa petite enfance, mais ça concerne aussi l'accouchement. C'est comment ma mère, elle a vécu l'accouchement ? Et c'est quoi la légende familiale ? Et c'est quoi ce qui s'est passé réellement, en fait ? Voilà. Et des fois, les mères, elles peuvent dire « Oh, mais ça s'est très bien passé, c'était super ». Et puis on sent que c'est fermé de partout, que c'est hyper crispé. Et là, on se dit, OK, il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est ça qui se transmet, en fait. Et donc, comment je peux couper, en fait, cette transmission-là pour aller sur autre chose ? Et la peur engendre la douleur. C'est-à-dire que dans notre quotidien, hors maternité, on peut s'en apercevoir. Je vais faire une prise de sang, j'ai très peur d'avoir mal. C'est sûr que j'aurai mal, quoi. C'est sûr. Si je n'ai pas peur, je ne dis pas que j'aurai pas mal. Mais en tout cas, je serai plus détendue et j'accueillerai les choses autrement. Et donc, quand on arrive et qu'on a peur, c'est compliqué. C'est un peu la crispation dont on parlait tout à l'heure. Une contraction, c'est comme une vague qui arrive. On a une espèce de tsunami là, qui nous arrive devant. Et on se dit, OK, j'en veux pas. Je suis crispée, je me la prends quand même en pleine face. Et elle vient me bouleverser, me renverser, voire me noyer parfois. Et donc, je peux même aller jusqu'à de la souffrance. Par contre, je vois la vague arriver, je me dis, OK, ça va pas être facile. Mais j'y vais et je plonge dedans. Et dedans, ça remue. C'est pas confortable. Mais par contre, je peux ressortir de l'autre côté. Et donc, alors ça, c'est très théorique, c'est très beau. Hein, mais quand on y est, ben, on se raccroche aussi à des choses comme la respiration, comme les lianes dont Marie parlait tout à l'heure. Ça, c'est la suspension. C'est quelque chose qui vient beaucoup soulager le corps et qu'on n'utilise sûrement pas assez, en fait, aujourd'hui. La chaleur de l'eau, le bain, la douche. Une douche, hein, parce qu'il n'y a pas des baignoires dans tous les hôpitaux, donc une douche, c'est déjà beaucoup. Et puis après, il y a des petits outils du type la sophrologie aussi, ou simplement de la musique, qui peuvent venir détendre, sur lesquels on peut chanter aussi. Parce que des fois, les femmes, elles n'osent pas faire des sons. Elles se disent, bah, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Alors, soit le conjoint, il est OK, il peut faire des sons qui vont couvrir ceux de la femme et elle va pouvoir se lâcher. Soit on met de la musique, et puis on chante. Voilà, enfin, on chante. Mmh. On essaie de chanter, quoi.
Oui, là, il y a tout ce qu'on peut faire sur le moment, mais pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, Anne-Christine, l'importance de détricoter aussi en amont. Et là, moi, je recommande souvent à mes patientes de lire des récits de naissance où il n'est jamais question de douleur, en tout cas, où les choses sont présentées, décrites de manière très différente. Voilà, pour pas nourrir cette croyance, mais en créer de nouvelles et se créer de nouvelles représentations sur ce que peut être l'accouchement. Il y a aussi des femmes, même si c'est pas la majorité, qui accouchent dans le plaisir, qui ont parfois des orgasmes. Mmh. D'autres qui peuvent dire que c'est pas forcément douloureux, mais très intense. Voilà. Et puis il y a plein de femmes pour lesquelles, en effet, elles rencontrent la douleur, mais voilà, on peut aussi modifier les perceptions, les représentations, en tout cas les représentations qu'on a pour modifier ces perceptions au moment où on le vit et au moment où on traverse ça.
Et puis on peut rencontrer la douleur à un moment de l'accouchement, et puis ça passe, et puis ça revient, et puis il y a de l'intensité. Et en effet, il y a souvent cette confusion entre l'intensité et la douleur.
Ou le désagréable et le douloureux aussi. Il peut y avoir cette confusion.
Aussi. Et il y a par exemple une croyance qui est beaucoup de dire, bah, si on commence à avoir mal et qu'on est à 3, bah, alors à 10, ça va être juste insupportable. Et en fait, pas du tout. Parce que le système physiologique qui fait qu'on va sécréter des endorphines, que... Voilà, on va être dans un autre état de conscience qui nous permet de percevoir cette intensité autrement aussi. Donc c'est un peu comme les grands sportifs, quand ils sont au bout du bout, les marathoniens, là, ils n'en peuvent plus, et ben, ils tiennent, ils ont ce second souffle qui les relance. Dans l'accouchement, il y a exactement ça en fait. Les endorphines, elles ont cette capacité-là. Et donc, je pense qu'il faut en effet changer, vous avez raison, les représentations qu'on peut se faire et aller nourrir le beau en fait. Peut-être que la douleur, elle sera là. Peut-être. Mais en tout cas, c'est pas ce qui prend toute la place. Mmh. C'est pas ça, un accouchement. C'est-à-dire que si on met toute la place sur la douleur, on passe à côté du sacré, du mystère de l'enfantement, en fait. On va passer à côté de ce qu'on a à vivre.
Alors maintenant, pour parler un petit peu du postpartum, comment, Marie nous l'a bien dit, voilà, là, comment cette hypersensibilité a un peu explosé pour vous à ce moment-là ?
Alors ça explose, oui, en général. Dans le postpartum, le premier des symptômes, c'est souvent ce baby blues. Voilà, alors on l'explique beaucoup dans notre société par un contexte hormonal, chute des hormones. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. Il y a des sociétés où on ne parle pas de baby blues. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il y a un contexte différent qui fait que les femmes ne traversent pas ça. C'est quand même un remaniement, j'allais dire violent, en tout cas très intense, de devenir mère. C'est-à-dire que alors, ça, peut-être que ça dure longtemps, peut-être que ça dure 24 heures, l'accouchement. Mais en fait, que ça dure 24 heures ou 3 heures, tout d'un coup, on se retrouve avec un bébé dehors qui était dedans pendant 9 mois. Et là, il y a quand même un choc, quoi. Donc, ce baby blues, il est là aussi pour participer à une nouvelle adaptation, à un nouvel équilibre à trouver. Et bah, ce nouvel équilibre, il va mettre parfois longtemps, en fait, parce qu'on se cherche, on cherche son bébé aussi, on cherche à créer du lien, à le comprendre. C'est quoi ces pleurs? Comment ça fonctionne ce bébé en fait? Je ne comprends pas tout. Et en fait, le trio va apprendre à se découvrir tout doucement. Mmh. Et donc l'hypersensibilité, elle va être là pour essayer de rendre les choses plus fluides en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mamans, par exemple, qui vont se réveiller la nuit juste avant que le bébé pleure. Voilà. Et elles me disent, mais je ne comprends pas, il n'avait pas pleuré, mais je me suis réveillée et 20 secondes après, il s'est mis à pleurer. Ben ça, c'est de l'hypersensibilité, c'est une perception plus fine qu'on ne sait pas où expliquer aujourd'hui scientifiquement. Enfin, en tout cas, il y a un truc, il y a un lien énergétique qui fait que ben, la maman, elle va ressentir en fait, tout ce que vit son bébé.
Donc là, vous nous dites bien que cette hypersensibilité, à nouveau, là, elle a un rôle, une fonction d'aider à être en lien, à favoriser l'attachement avec le bébé, à répondre de la manière suffisamment bonne et adéquate à ses besoins, de pouvoir décoder ses besoins, etc.
Complètement. Si elle était restée dans un mode de fonctionnement avant grossesse, on peut se poser la question de savoir comment la maman réagirait en fait aux besoins de son bébé. Est-ce qu'elle pourrait les comprendre aussi bien ou pas? Est-ce qu'elle pourrait être dans cette empathie, dans cette fusion dans... Moi, je pense que cette hypersensibilité, elle est vraiment là pour créer ce lien-là et pour accorder, en fait, le bébé et la maman dans ce postpartum. Mmh.
Selon vous, Anne-Christine, est-ce que cette hypersensibilisation va être accentuée par l'allaitement? En tout cas, voilà, quid de l'allaitement? Est-ce qu'il y a des choses particulières que ça génère, que ça amène sur cette question-là?
Alors, je ne suis pas sûre que l'allaitement vienne accentuer, voilà, parce que l'hypersensibilisation, elle est là, allaitement ou pas, je crois qu'elle est vraiment là. Par contre, ça va générer des sens que la femme qui n'allaite pas ne connaît pas. Enfin, voilà, y a des sensations corporelles en fait qui vont être là et qu'on a quand on allaite et qu'on n'a pas quand on allaite pas, de manière très claire. Après, clairement, dans le lien avec le bébé, ça crée aussi un lien différent qui passe par des sens différents qui sont ni moins bien ni mieux, enfin, qui sont différents. Mais je suis pas persuadée que ça exacerbe le processus. Par contre, peut-être que ça peut le faire durer plus longtemps parce que hormonalement. Voilà, la femme, elle est encore pleine de ses hormones pendant l'allaitement. Et que si l'allaitement, il dure plusieurs mois, plusieurs années, ben oui, peut-être que en fait, c'est aussi lié à ce non-changement hormonal va faire perdurer cette hypersensibilisation.
Comme vous nous l'avez bien dit, Anne-Christine, la maternité génère voilà, cet état d'hypersensibilisation qui va varier en fonction de la personnalité de la femme, si elle est préalablement hypersensible ou non, si elle le sait, apprivoise déjà ce fonctionnement ou non. Cette hypersensibilisation a un sens et vient soutenir, s'entremêle avec tous les autres processus psychiques et physiologiques du devenir mère, ce qui permet que cette transformation identitaire se fasse au mieux. Et pour conclure, Marie, est-ce que vous avez perçu quelque chose de cette hypersensibilité chez votre conjoint ?
Oui, à plein de moments, par plein d'anecdotes. Ça a commencé en effet avec l'aptonomie. C'est poursuivi par son empathie, sa capacité à me rassurer, à me soutenir. On parlait tout à l'heure du socle que ça pouvait, du roc solide qu'il pouvait représenter. Je pense qu'en fait, lui, il a aussi parfois, il m'a rassurée alors que lui ne devait pas du tout être rassuré. Et au moment de l'accouchement, je sais que c'est le cas, mais c'est lui qui devait aussi garder la solidité. Et donc, par l'empathie dont il a fait preuve, c'est certain. Donc oui, c'est sûr.
Anne-Christine, est-ce que vous observez aussi cette hypersensibilité, hypersensibilisation pendant la grossesse, qui est aussi plus présente chez les hommes?
Alors, pendant la grossesse, assez peu. Peut-être parce qu'ils ont plus de mal à projeter, parce que l'entrée en paternité ne se fait pas sur le même rythme, en fait, que l'entrée en maternité. Donc, assez peu sur la grossesse. Par contre, à l'accouchement et après, oui. Et c'est pour ça que, clairement, ce n'est pas uniquement hormonal. Parce qu'eux, ils n'ont pas ce processus-là. Quoique un petit peu, mais il y a vraiment autre chose de l'ordre de comment je deviens parent, en fait. Mmh. Et donc, oui, je constate aussi chez les hommes ces nouvelles perceptions, en fait, qui se développent pour percevoir le monde autrement et voir un petit peu le monde à travers les lunettes de leur bébé, en fait.
Je recommande souvent des lectures à mes patients. Est-ce que Marie, vous avez lu ou vu ou entendu quelque chose qui vous a aidé à traverser tout ça?
Alors, moi, je vous disais au début que j'avais peur de tomber enceinte. Un témoignage qui m'a beaucoup aidée, c'est celui de Carole Rocher, qui est la conjointe de Thomas Gijol et qui a donné son témoignage sur Bliss Stories. C'est l'épisode numéro 86. Elle a accouché de 4 filles, de 3 pères différents, et elle raconte ses 4 accouchements, son accompagnement également par une doula. Pour nourrir le beau et rassurer, ça aide beaucoup. C'est un des témoignages qui m'a le plus rassurée et qui est aussi drôle. Elle raconte qu'elle a accouché de 4 façons très différentes et qu'elle a vu chez ses filles la personnalité de leur accouchement. Une qui a été mise au monde dans l'eau et qui a aujourd'hui un caractère très enveloppant et très doux. Et la petite dernière, elle n'a même pas pu aller jusqu'à la salle de naissance. Elle était sur le brancard et elle a dit stop en plein milieu du couloir. Elle s'est mise à 4 pattes, elle a poussé, le bébé était là. Et aujourd'hui, c'est le petit enfant rock'n'roll de la famille. Sur toute sa manière dont elle a vécu la grossesse et à chaque fois ses accouchements, elle a cette capacité à expliquer à quel point elle aime être enceinte, cet état, l'effet aussi d'accoucher et derrière ce que ça engendre dans la maternité. C'est un témoignage très simple, très brut, qui m'a fait beaucoup de bien.
Merci beaucoup Marie. Anne-Christine, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander?
Alors, sur l'hypersensibilité, si ce sont des sujets qui intéressent, il faut absolument lire les livres d'Hélène Aron, qui est vraiment la psychologue qui a initié en fait les études sur le sujet. En France, ce sont les livres de Saverio Tomasella et de Charlotte Wiltz, voilà, que j'aime beaucoup. Et sur la maternité, moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, mais je crois qu'il n'est plus édité, donc il faut le trouver d'occasion. C'est un livre qui s'appelle « Enceinte au cœur des émotions » de Nathalie Lancelin-Huin, qui pour moi est vraiment un livre magnifique. J'aurais aimé l'écrire, ce livre.
Et puis on recommande évidemment votre livre « Maternité, hypersensibilité ».
Et hypersensibilité, maternité qui sort le 14 avril.
Merci beaucoup, Anne-Christine. Un immense merci, Marie, d'être venue partager avec nous votre processus de devenir mère.
Merci.
On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, pour la reprise. Et moi, j'aurais un conseil d'un podcast pour vous, pour préparer la reprise, qui s'appelle La Reprise. Et dans ce podcast, il y a plusieurs épisodes dans lesquels je suis intervenue pour préparer la reprise et pour pouvoir un peu aussi comprendre tout ce qui se joue à ce moment-là, et que c'est pas que le fait de confier son enfant, qu'il se joue aussi plein d'autres choses au niveau de l'identité, de soi, voilà. N'hésitez pas à aller écouter ça.
Très bien, merci beaucoup.
Un très grand merci Anne-Christine Barbecot pour tous vos conseils, vos éclairages. Je rappelle que vous êtes doula et sophrologue spécialisée en périnatalité et qu'on peut vous retrouver sur votre site internet chemindenaissance.com.
Merci Mathilde.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.